Chérie, l'invité du vendredi.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Emmanuel Saint-Bonnet. Vous êtes politologue et vous êtes notamment basé en Ardèche. Alors, on vote ce week-end. Quand je dis « on », c'est pas la population qui est concernée, c'est plutôt les grands électeurs, puisqu'on vote pour les sénatoriales. Alors, comment on explique le fait, justement, que ce soit pas tout le monde qui puisse aller glisser son bulletin dans l'urne ce dimanche ?
Ça, c'est la constitution de 1958. Les rédacteurs de cette constitution ont estimé qu'il devait y avoir deux assemblées dans le pays. L'Assemblée nationale, qui est élue par les citoyens, et puis une autre assemblée qui devrait représenter davantage les territoires. Donc, c'est un collège de grands élus qui sont, pour ainsi dire, quasiment tous des élus et surtout des conseillers municipaux.
On a coutume de dire que les élections passionnent de moins en moins les Français. Alors là, pour le coup, ils ne voteront pas directement, mais malgré tout, sénateur en France, c'est un poste et un rôle crucial hein, pour la démocratie.
Alors oui, parce que le rôle en fait du sénateur, du Sénat, c'est un petit peu de lisser, de modérer peut-être les élans de l'Assemblée nationale. Lorsqu'une loi est votée par l'Assemblée nationale, obligatoirement elle doit passer par le filtre sénatorial. Donc les sénateurs vont réexaminer la loi, s'ils sont d'accord, ils la revoteront. S'ils ne sont pas d'accord sur certains points, ils vont faire ce qu'on appelle des amendements, ils vont rajouter des choses qui vont un petit peu modifier le sens, la portée de la loi. S'ils ne sont pas d'accord, ils la rejettent. Après, les conséquences sont quand même limitées parce que il y a ce qu'on appelle la deuxième lecture et c'est ce qu'on appelle les navettes parlementaires. C'est-à-dire la loi part de l'Assemblée, elle va au Sénat et ensuite du Sénat, elle repart à l'Assemblée. Donc l'Assemblée a tout de même le dernier mot, on estime quand même, en étant démocratie, que ce sont les élus directement qui ont le dernier mot. Mais tout de même, ça permet de modérer, de lisser un certain nombre de choses, d'apporter des idées que peut-être on n'avait pas eues, qui n'étaient peut-être pas évidentes au départ. Donc bien sûr, il y a un rôle qui est important hein, pour le bon fonctionnement des institutions.
On a beaucoup parlé de l'épidémie de coronavirus lors des dernières élections municipales. On ne savait pas justement quel serait le taux d'abstention et puis à l'inverse, le taux de participation. Mais là, j'allais dire, la question ne se posera pas pour les grands électeurs parce qu'ils ont quelque part l'obligation d'aller voter ce dimanche.
Oui, oui, puis de toute façon, cette obligation, elle est au moins morale parce que, bon, ils sont quand même désignés par leur père. C'est un petit peu comme les grands électeurs aux États-Unis. Hein. Donc, bon, bah, s'ils n'y vont pas, c'est que quand même, ils ont failli à leur mission. Et puis, par exemple, en Ardèche, ils sont 1000. Bon, il y a sur 1000 personnes, il y a un contrôle social qui peut s'exercer en disant, ah bah, pourquoi t'es pas allé voter, on t'a pas vu voter et tout. Un petit peu comme dans les petits villages où on s'aperçoit, par exemple, s'il y a des bulletins blancs qui sont assez importants, c'est ce qu'on appelle de l'abstention masquée. On va voter parce que le voisin, parce que les copains vont dire qu'on n'est pas allé voter. Bon, c'est un petit peu comme ça. En général, l'abstention est de 1 ou 2%. Donc s'il n'y a pas eu vote, c'est qu'il y a eu empêchement, hein, voilà, tout simplement. Et puis même les bulletins blancs ne sont pas très très nombreux. Donc c'est quand même des gens qui sont motivés pour aller voter.
Le Sénat, est-ce que ça prend plus son sens ? Est-ce que, j'allais dire, les sénateurs ont une mission un peu différente dans des territoires comme les nôtres, un peu plus ruraux, comme la Drôme et l'Ardèche ?
Bah, ils sont, comme les députés, ils vont faire remonter des dossiers. Alors, peut-être que leur mission est peut-être un petit peu plus dans la durée, car rappelons que leur mandat est de 6 ans, au lieu de 5 ans pour les députés. Et encore, on l'a raccourci, hein, parce que il y a encore pas très longtemps, c'était des mandats de 9 ans. Donc on vote pour les sénatoriales tous les 3 ans parce que l'Assemblée est renouvelée par moitié. Donc autrement, après, c'est sûr qu'un citoyen va aller s'adresser à son député pour faire remonter des dossiers, pour débloquer un dossier ou voilà, pour lui attirer l'attention sur quelque chose. Et effectivement, les sénateurs, ce sera plutôt des élus qui iront s'adresser à eux.
On a coutume de dire que le Sénat est plutôt à droite avec, j'allais dire, des élus un peu plus âgés que les députés, est-ce que ça se vérifie ?
Alors, de moins en moins. C'est vrai qu'il y avait une règle qui était qu'il fallait avoir au moins 33 ans ou 35 ans pour être élu sénateur. Bon, la règle, elle est toujours là, mais c'est vrai qu'il y a des efforts quand même qui sont faits pour que des personnes plus jeunes soient présentées. Mais c'est vrai qu'en moyenne, oui, l'âge est plus âgé. C'est pas une question de droite et de gauche. Le fait qu'il soit à droite, c'est historique. Hein. Il n'a été à gauche sous la 5e République que pendant 3 ans, de 2011 à 2014. Autrement, ça c'est plutôt lié à des raisons historiques, hein, tout simplement. Hein.
Quels sont les enjeux de cette élection, de ces élections sénatoriales pour la Drôme et l'Ardèche, où la plupart des sénateurs déjà au poste remettent leur titre en jeu, hein, vous confirmez ?
Oui, enfin oui et non, parce qu'il y a quand même un certain renouvellement. En Ardèche, Jacques Genest ne se représente pas. donc il aura fait même pas un seul mandat, il a terminé son mandat un petit peu avant la fin. Il est passionné par sa commune et il a préféré rester sur sa commune, alors que l'autre sénateur, Mathieu Darnaud, qui n'est pas très âgé, il a environ 45 ans, voilà, c'est pas un sénateur très très âgé, lui se représente. Donc il y a un siège en jeu en Ardèche, et dans la Drôme, il y a aussi un renouvellement qui va être mis en place. Donc en fait, c'est surtout savoir si ça va bouger au niveau des partis qui auront les sièges. Hein, voilà. Ça, c'est vraiment des enjeux locaux, parce qu'au niveau national, ça ne devrait pas bouger.
D'accord, le fait que Emmanuel Macron a été élu justement président, avec aussi une large majorité à l'Assemblée nationale, est-ce que ça peut changer quelque chose? Est-ce que, j'allais dire, il y a des possibilités pour que le Sénat bascule du côté de La République En Marche?
Aucune. La République En Marche aujourd'hui doit avoir une vingtaine de sénateurs, enfin en tout cas elle a un petit groupe, et là sur un renouvellement de moitié, il faudrait vraiment qu'on ait un raz-de-marée gigantesque en faveur de La République En Marche. Vu le contexte actuel, c'est quand même extrêmement improbable. Et puis ça marche pas comme ça, c'est pas des basculements comme ça d'un coup, c'est vraiment à long terme. Lorsqu'il a basculé à gauche en 2011, ça a été le résultat d'au moins de 8 à 10 ans de lent glissement à gauche, voilà, où petit à petit la gauche a grignoté les positions de la droite. Donc quand on parle de 30 sénateurs, bah là justement ça se vérifie, les évolutions sont assez lentes.
Et ben merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc 3 sénateurs, hein, c'est ça, côté de Rome, et 2 côté Ardèche.
C'est ça. Tout à fait.
Merci d'avoir été avec nous en tout cas.
Merci beaucoup.
À bientôt.